Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'alpha-mannosidose et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Nathalie Guffon. Docteur Guffon, bonjour.
Bonjour.
Docteur Guffon, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier et responsable du centre de référence enfants et adultes des maladies héréditaires du métabolisme au sein des Hospices civils de Lyon. Alors, docteur Guffon, nous abordons aujourd'hui la prise en charge des patients atteints d'alpha-mannosidose. Quels sont les enjeux du traitement pour ces patients ?
L'alpha-mannosidose est une maladie multisystémique, évolutive et dégénérative. Les objectifs de la prise en charge sont donc de ralentir et, dans l'idéal, de stopper l'évolution de la maladie. Pour les plus jeunes patients, l'objectif sera d'empêcher l'apparition des complications. Ceci avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie des malades et de leurs familles, de permettre une meilleure autonomie dans la vie quotidienne et une insertion sociale. Pour cela, il est important d'améliorer la précocité du diagnostic et de réaliser une prise en charge multidisciplinaire adaptée.
Si on s'intéresse à la prise en charge symptomatique d'abord, quelles sont les mesures thérapeutiques qu'on peut proposer à ces patients ?
Alors, la prise en charge symptomatique va nécessiter un suivi pluridisciplinaire en raison de l'atteinte multiviscérale de cette maladie. La première complication importante est la surdité neurosensorielle qui nécessite le port de prothèses auditives bilatérales. Plus la prise en charge sera précoce, meilleure sera l'évolution sur le plan de l'acquisition du langage. Par ailleurs, une prise en charge chirurgicale est nécessaire. Dans l'enfance, elle concerne essentiellement la partie ORL avec la nécessité de mettre en place des drains transtympaniques souvent à répétition, voire des drains de longue durée, de réaliser des adénoïdectomies et, dans un certain nombre de cas, amygdalectomie. Au cours de l'évolution de la maladie, en fonction des complications, des chirurgies orthopédiques vont être proposées et vont concerner essentiellement les hanches et les chevilles. Pour certains patients, il faudra recourir à des interventions neurochirurgicales. Ça peut être chez le jeune enfant en raison d'une hydrocéphalie dans les formes les plus sévères et chez l'adulte, la décompression des nerfs médians en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. La prise en charge médicamenteuse est variée et va viser à traiter les différents symptômes. La prescription d'antibiotiques récurrents est souvent indispensable en raison des infections à répétition liées au déficit immunitaire de cette maladie. Pour mémoire, les infections sont la première cause de mortalité chez ces patients. Des traitements à visée pulmonaire de type corticoïdes inhalés et bronchodilatateurs peuvent être nécessaires en raison d'un asthme viro-induit. Au cours de l'évolution de la maladie, des traitements antalgiques et des traitements anti-inflammatoires peuvent être prescrits pour le traitement des douleurs ostéo-articulaires. Par ailleurs, en raison du risque d'ostéoporose et d'ostéopénie, il est nécessaire de vérifier que ces patients ont un apport suffisant en calcium et en vitamine D. En cas de complications psychiatriques que l'on voit essentiellement chez l'adolescent et l'adulte jeune, il sera nécessaire de recourir à des antipsychotiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Enfin, chez l'adulte, les complications cardiaques peuvent nécessiter la prescription de bêta-bloquants. La prise en charge rééducative est un autre volet important du traitement symptomatique, en particulier chez l'enfant. Il sera nécessaire d'avoir des séances d'orthophonie, de la psychomotricité, de la kinésithérapie et une prise en charge en ergothérapie. Par ailleurs, il est très important de prévoir des aménagements du parcours scolaire et professionnel de ces patients, ainsi que des aménagements des activités sportives. Le suivi psychologique et neuropsychologique est nécessaire au cours de cette maladie. Le dernier prise en charge symptomatique possible concerne essentiellement les adultes et ça va être la mise en place d'une ventilation non-invasive nocturne quand ces patients développent un syndrome d'apnée du sommeil.
Et qu'en est-il de la prise en charge spécifique de la maladie, docteur Guffon ?
Cette maladie est causée par le déficit d'une enzyme lysosomale appelée l'alpha-mannosidase qui entraîne l'accumulation progressive d'oligosaccharides riches en mannose dans l'organisme. Cette accumulation est responsable d'un dysfonctionnement et d'une mort cellulaire. Le traitement spécifique est donc un traitement qui vise à restaurer cette activité. Pour ce faire, dans le passé, certains patients ont bénéficié de transplantations de cellules souches hématopoïétiques avec des résultats à long terme variables. Maintenant et depuis une dizaine d'années, nous utilisons dans le cadre d'essais cliniques un traitement par perfusion hebdomadaire de l'enzyme recombinante, l'enzyme humaine, produite par génie génétique.
Et pour ces patients, quel est le suivi qui est préconisé ?
Alors, il est nécessaire de faire un suivi multidisciplinaire annuel comportant une évaluation ORL et auditive, une évaluation orthopédique, un bilan de la fonction motrice de l'équilibre par un kinésithérapeute, une évaluation de la fonction pulmonaire, de l'échographie cardiaque et un suivi ophtalmologique. On réalise aussi régulièrement des bilans orthophoniques et des bilans neuropsychologiques. Et selon l'évolution des patients, il peut être nécessaire de recourir à l'intervention du neurochirurgien, à la prise en charge par un centre antidouleur, à des hospitalisations en milieu psychiatrique. En fonction des bilans, de l'âge et de l'évolution, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires, comme un électromyogramme pour rechercher une souffrance des nerfs médians, une IRM cérébrale ou médulaire, en particulier lors des premiers épisodes psychiatriques, on s'assure qu'il n'y a pas une cause organique, une polysomnographie pour rechercher un syndrome d'apnée du sommeil ou une absorptiométrie pour dépister une ostéopénie ou une ostéoporose.
Alors, vous l'avez évoqué, docteur Buffon, l'alpha-manosidose est une maladie génétique. Quels sont les conseils génétiques qu'on peut proposer aux patients ?
Alors, l'alpha-manosidose, elle est due à des mutations du gène MAN2B1. Elle se transmet selon un mode autosomique récessif. Ça veut dire qu'une personne malade a reçu une mutation du gène MAN2B1 de chacun de ses parents. Un couple qui a donc un enfant atteint a statistiquement un risque sur quatre d'avoir un autre enfant atteint lors d'une prochaine grossesse. Il est donc important, d'une part, de dépister la fratrie plus jeune lors du diagnostic d'un patient. Les plus âgés, normalement, devraient avoir des symptômes, mais les plus jeunes, on peut retrouver une fratrie plus jeune atteinte plus précocement parce qu'on fait le dépistage systématique en raison du diagnostic chez un aîné. Enfin, pour un couple concerné par cette maladie, un diagnostic prénatal par ponction de villosité choriale est possible. Ça, c'est vraiment les parents d'un patient atteint. Pour un patient atteint, le fait que ça soit récessif autosomique fait que si ces patients devaient avoir une descendance, le risque, c'est une maladie ultra rare, le risque pour eux d'avoir un enfant atteint est extrêmement faible et ne survient que dans des cas exceptionnels qui seraient, par exemple, la réalisation d'un enfant par deux patients atteints d'alpha-manosidose, ou par des mariages consanguins.
Alors, comme pour d'autres maladies rares, il existe des registres français et internationaux concernant l'alpha-manosidose. Quels sont les objectifs de ces registres et pourquoi ont-ils été mis en place ?
Alors, effectivement, il y a deux registres. Il y a un registre français appelé Étoile Alpha. Ce registre a été mis en place en 2000, mais ce n'est pas un registre prospectif, ça a été mis en place une fois pour colliger de façon rétrospective les données de l'ensemble des patients français traités par enzymes recombinantes, que ce soit dans le cadre des essais cliniques ou dans le cadre des autorisations temporaires d'utilisation. L'objectif d'Étoile Alpha était de fournir des données complémentaires sur ce traitement à la Haute Autorité de Santé. Ensuite, il y a un registre international, prospectif, non interventionnel, post-mise sur le marché, qui s'appelle le registre SPARKLE et qui permet d'inclure tous les patients diagnostiqués, traités ou non par enzymothérapie substitutive. Ce registre a deux objectifs principaux. Le premier est la surveillance de l'efficacité et de la sécurité à long terme de l'enzymothérapie. Et le second est d'améliorer les connaissances sur l'histoire naturelle de l'alpha-manosidose. Dans tous les cas, pour participer à ce registre, ça nécessite bien entendu le consentement des patients ou de leur famille selon l'âge.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, docteur Buffon. Quelles sont les perspectives de recherche dans l'alpha-manosidose ?
Alors, il y a deux pistes principales de recherche. D'une part, il y a de nouvelles enzymothérapies substitutives qui sont en phase de développement préclinique et qui devraient à l'avenir faire l'objet d'essais cliniques. C'est des enzymothérapies où l'enzyme est un petit peu modifiée pour améliorer sa diffusion dans certains tissus, en particulier au niveau cérébral. Et puis, par ailleurs, il s'agit d'une maladie monogénique qui devrait, à l'avenir, être accessible à la thérapie génique. En tous les cas, c'est une maladie qui est une bonne candidate pour ce type de thérapeutique.
Eh bien, merci mille fois, docteur Buffon, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'alpha-manosidose. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !